Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes. Cette semaine, mon invitée est une entrepreneuse du futur. Non, elle n'a pas voyagé dans le temps, mais elle a sans doute pris de l'avance sur les plans du fameux monde d'après. Un monde dans lequel on repenserait notre alimentation pour rapprocher nos choix de consommation de nous, de notre bien-être, mais aussi de la nature. Rien de bizarre à l'intérieur. C'est la promesse des encas sucrés et salés de la marque Funky Veggie. Sa cofondatrice, Camille Azoulay, vient également de publier chez Larousse « Ma vie en plus funky et veggie, la green attitude pour se faire du bien sans se prendre la tête ». Au micro des Impertinentes, Camille revient sur son parcours entre Paris, la Chine, l'aventure entrepreneuriale, ses obstacles et ses victoires. Bonne écoute. Bonjour Camille.
Bonjour Clémence.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien, dans cette période un peu bizarre, mais ça va bien.
Un peu bizarre, quel doux euphémisme pour décrire la situation cataclysmique actuelle. Mais ok, je prends. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Camille?
Alors je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Funky Veggie, qui a pour mission d'accompagner les gens vers une alimentation qui est plus naturelle, plus végétale, mais à travers le plaisir avant tout. Donc en fait, on fait des produits qui sont très très gourmands, avec des compositions irréprochables, et on fait souvent sourire par tous les petits clins d'œil qu'on a sur les packs, sur les réseaux sociaux, etc.
On va revenir à Funky Veggie et à ces produits que j'adore, mais avant ça, je voulais qu'on parle un peu de ton parcours. J'ai comme un doute, mais à quel... Je pense pas que quand t'étais petite et qu'on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, tu répondais direct, je vais créer une marque de produits sains, bio, vegan.
Ouais, non, pas du tout.
Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande?
Alors, j'étais pas du tout dans cette idée-là, même si je rêvais en très grand, j'imaginais plein de trucs. J'ai toujours adoré rêver de plein de trucs. Mais je m'imaginais plus comme une sorte de star. J'étais complètement mégalo, quoi. Mais je pensais, pendant toute une phase, je voulais être styliste. Après, comme je pense 80% des petites filles. Après, j'ai voulu travailler dans l'art, pour le coup. Et je faisais beaucoup, beaucoup d'art plastique et de cours à côté de l'école. Et du coup, je voulais faire ça. Je savais pas trop, mais voilà, j'avais envie... je rêvais beaucoup, mais je rêvais plus de ce qu'il y avait autour. Je rêvais de mon amoureux, je rêvais d'une maison. Enfin voilà, j'étais dans mon petit univers féerique.
Effectivement, je trouve que les filles, enfin les jeunes femmes et... Les filles, les jeunes femmes sont assez peu nombreuses à rêver d'entrepreneuriat. À quel moment, toi, le concept de « je vais co-monter, co-fonder une boîte », à quel moment cette idée-là est née chez toi?
En fait, ça m'est un peu tombé dessus. Déjà, j'étais porteuse du projet seule au début. J'ai eu un moment qui a été très, très, très dur. Et ça s'est imposé à moi. En fait, j'ai eu un parcours hyper classique à la base. Je voulais faire une école d'art, mes parents ne voulaient pas. Ils m'ont dit, écoute, soit tu fais une hippocane, canne, soit tu fais Sciences Po. Et après, si tu veux encore faire une école d'art, ok. J'étais une très, très bonne élève et je voulais vraiment toujours que tout le monde soit content de moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai fait Sciences Po et je suis arrivée, j'ai fait ma troisième année qui était à l'étranger. J'ai adoré, j'étais en Chine, j'ai adoré la Chine. J'étais à Hong Kong, j'ai tellement aimé que j'ai voulu partir à Shanghai. Donc rester là-bas et je me voyais vraiment bosser en Chine. En fait, moi, je me voyais bosser dans le marketing, la com, en Asie. Je parlais mandarin, du coup. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais là-bas. Je suis rentrée pour lui en France. Et je devais faire un double diplôme entre Paris et Shanghai pour repartir en Chine. Et en fait, ça s'est très, très mal passé. Parce qu'avec lui, ça s'est très, très mal passé. Et parce que quand je suis rentrée, j'ai fait un stage en agence de com. Donc, voilà, je pensais que ce serait plutôt ça ma vie et c'était une catastrophe. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, que ça avait pas de sens, parce que selon les clients, c'était pas toujours mes valeurs, la com pour la com, c'était totalement dénué de sens. Et côté de ça, j'avais cette prise de conscience qui arrive au même moment de tout l'impact qu'on a sur la planète et que notamment notre alimentation a à la fois, enfin c'était pour moi surtout l'environnement le principal déclencheur. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, le chemin dans lequel je m'embarque, ça va pas du tout. Je pense que maintenant, quand je vois, quand je regarde en arrière, j'ai fait une sorte de mini dépression. Je me suis rasé la tête d'ailleurs. Ça arrive souvent, souvent là, je crois, quand on touche le fond. Et en fait, bah, j'ai commencé à faire ce qui pouvait m'animer, en fait, sans vraiment réfléchir, mais plus parce qu'il fallait que je fasse quelque chose qui puisse me plaire. Et où j'avais l'impression que ça avait un peu de sens. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à l'alimentation et à son impact. Et je me posais la question de comment est-ce que finalement on peut accompagner les gens vers une transition, voilà, pour avoir au global une alimentation qui est plus végétale, mais sans forcément convertir les gens, sans forcément faire qu'il y ait une minorité de véganes et le reste du monde qui ne change pas son mode de vie. Et en fait, à ce moment-là, j'arrivais en master, j'avais un cours d'entrepreneuriat avec Jacques-Henri Hérault, qui est le président de l'OM, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, il fallait qu'on travaille sur un projet. Et c'est arrivé à ce moment-là, et j'ai commencé à travailler sur Funky Veggie, mais ça n'avait pas ce nom-là. Et en fait, c'était la mission qui me portait. Et c'est marrant parce que maintenant, je pense que je sais que c'est quand tu es au plus bas que vraiment tu es obligé de réfléchir à ce que tu peux apporter, faire quelque chose qui est vraiment aligné avec toi.
Tu dirais que ton moteur dans cette période, c'était plus la recherche de sens ou plus la recherche d'utilité? Et quelle différence tu fais entre les deux?
Alors déjà, je pense qu'il y avait un côté personnel, et c'est ce que je trouve intéressant avec l'alimentation et avec tout ce qu'on peut faire aussi pour avoir un meilleur impact, c'est que souvent quand on a un meilleur impact sur la planète, sur les autres, on a d'abord un meilleur impact sur soi. Donc personnellement, en plus à un moment où j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, c'est le moment où ma maladie auto-immune s'est déclarée. Donc m'intéresser à l'alimentation et à l'alimentation plus naturelle, c'était déjà pour moi une sorte de thérapie parce que ça me permettait de me nourrir. De prendre soin de moi, en fait. Donc, je pense qu'il y avait ça, et j'en étais pas forcément consciente à l'époque, mais c'était en fait un acte délibéré de soin de moi. Se faire à manger et cuisiner, c'est ça aussi. Et après, je pense que c'était plus la recherche de sens. Et en fait, j'avais été un peu dégoûtée par le monde de l'art parce que j'avais découvert le monde des collectionneurs d'art, où en fait, c'est une sorte de monde de la finance, mais appliqué à l'art. Ça m'avait un peu écœurée, et aussi ce qui m'embêtait dans l'art, c'était le côté, entre guillemets, gratuit, même si c'est pas le cas, mais le côté superflu, le côté on n'en a pas besoin, et finalement on fait une œuvre, mais une œuvre de plus. Et je sais que c'est strictement personnel et que c'est pas le cas, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me stresse, l'idée d'accumulation et de rajouter quelque chose au monde qui n'est pas forcément nécessaire. Et en fait, dans l'alimentation, je retrouvais cette dimension artistique, parce que c'est très créatif, c'est très artistique, et il y a aussi toute une mise en scène et tout. Et en même temps, elle était à la fois esthétique et fonctionnelle et utilitaire et éphémère, puisque bah, quelque chose qui se mange, voilà, ça se mange et ça disparaît, et après ça nourrit et ça se transforme, etc. Et donc ça, je pense que j'ai un peu dévié mon envie de faire des choses artistiques là-dedans. Et donc, c'était pas du tout réfléchi à l'époque. Je pense que c'était vraiment juste un acte créatif pour moi et quelque chose qui me semblait être aligné avec ce que je pouvais apporter et avec l'état actuel de la planète. Mais c'était égoïste à la base, je pense.
Bah, je retiens exactement ça de ta réponse. Je retiens que tu t'es mis au centre de ton projet. Et ça, je crois que c'est un très très bon conseil à donner à celles qui nous écouteraient, de ne pas s'oublier quand on lance un projet, qu'il soit artistique, entrepreneurial, peu importe le domaine. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que j'avais jamais identifié ça dans une démarche entrepreneuriale. Mais justement, entre l'idée et le résultat, l'entreprise, il y a toute une série de haies que sur un parcours de 100 mètres haies que moi personnellement je me vois pas du tout franchir. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours-là? Parce que donc tu t'arrêtes en master, t'as un cours d'entrepreneuriat et entre le moment où tu te dis j'ai une idée d'entreprise, j'ai une idée de projet et le moment où ça devient une entreprise avec tout un vocabulaire dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui fait peur, hein, c'est-à-dire de charge, de coûts, de pression, enfin, des gros mots qui sont balancés en permanence là en ce moment, ça fait peur, vraiment ça fait peur. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours de création d'entreprise?
Déjà, jamais j'aurais, à l'époque, je me serais projetée dans tout ça. Vraiment, je voyais pas à pas devant moi et je voyais ce qui me faisait du bien pas à pas. Et donc, je pense que le plaisir et ce qui allume une étincelle chez soi, c'est le premier truc qu'il faut suivre. J'arrive dans ce master, j'ai ce cours qui était passionnant, vraiment, qui était, je pense, le cours qui m'intéressait le plus. Mais moi, j'avais pas du tout pensé à ça avant. Et j'avance sur ce projet plus comme un hobby qu'en me disant que je vais le lancer. Et parce que à ce moment-là, ma vie, elle était un peu vide sous plein d'aspects et que je me plonge là-dedans. Donc, je travaille dessus. Ça a eu deux noms avant, enfin, qui veut dire dans mon idée et dans nos idées, au début, c'était Matcha. Donc, nom nul, puisque si tu tapes Matcha sur Google, tu tombes sur la poudre de thé. Donc, tu t'en fous. Et le deuxième, c'était Vegan My Day, qui était quand même trop. Le mot vegan, c'est un mot qu'on ne veut pas trop utiliser, qu'on évite d'utiliser, parce que c'est un mot qui est très connoté en France, très militant. Donc, j'avance sur le projet et le prof d'entrepreneuriat nous conseille de faire des startup week-ends, qui sont des sortes de marathons entrepreneuriaux qui durent un week-end. En fait, on arrive le vendredi soir, on pitch une idée. Si on n'a pas d'idée, en fait, on rejoint une équipe avec un porteur d'idées, de projet. L'idée, c'est de passer tout le week-end, donc jour et nuit vraiment, à travailler sur le projet, à faire pondre un business plan et compagnie, avec un pitch final le dimanche soir devant des gens qui peuvent t'aider à vraiment faire décoller ta boîte et à lancer concrètement ton business. J'en fais un premier où mon idée n'est pas retenue, donc je travaille sur un autre projet, je ne me sens même plus. J'en fais un deuxième qui était le vendredi soir du Bataclan, donc évacué. Et j'en fais un troisième, où vraiment je devais pas aller, mais mon copain à l'époque m'inscrit alors que j'avais des examens. Donc je me souviens, c'était à Polytechnique, donc à Villepinte. Et c'était le samedi, j'avais un examen à Paris à Sciences Po, donc je fais l'aller-retour en RER. Bon, au départ, je pensais vraiment pas y aller, mais je sais pas, je me chauffe, j'y vais. Et là, pour le coup, mon projet est retenu. Et le week-end est une catastrophe, parce que finalement, mon équipe se désolidarise dès le samedi, donc un jour après, enfin juste le lendemain, et commence à démonter le projet, qui en fait avait la même mission, mais c'était pas du tout la même chose. L'idée, c'était des paniers prêts à cuisiner, donc un peu comme fait Kitok. Et pour le petit clin d'œil, parce que j'ai vu que Kitok sponsorisait quelques épisodes, pour le petit clin d'œil, moi j'avais été stagiaire bénévole de 2 mois. Chez Kitok au tout début où ça s'appelait Cook in the World et où les deux fondateurs, voilà, étaient en gros les deux fondateurs et une team de stagiaires. Donc voilà, j'avais cette petite background et je voulais faire des paniers prêts à cuisiner. Et donc bref, le projet est démonté pendant tout le week-end. Mais bon, je vais jusqu'au bout et le dimanche, je pitch devant tout le monde, voilà, avec une équipe complètement désolidarisée, mais c'était pas grave. J'étais déprimée pour le coup. Et à l'époque, mon frère qui bossait en finance m'avait aidée sur la partie financement, business plan. Bref, je fais mon pitch, je sors et j'appelle mon frère pour lui débriefer que bon, bah, c'était un week-end de merde et que en fait, mon projet, ça vaut rien, c'est nul. Et il y a un mec qui me demande où sont les toilettes. Et qui me dit, by the way, franchement, j'ai bien kiffé ton pitch. Tu l'as vachement bien défendu. Moi, je me suis dit que, en fait, je serais client. En revanche, ta slide sur les chiffres, c'est une catastrophe. Et moi, voilà, j'ai un background plutôt financier. Si tu veux, je t'aide sur la partie business plan, parce que franchement, tu peux pas présenter ça. Et donc, je dis, ouais, ok, très bien. Et il se trouve que ce mec, c'était Adrien, qui est aujourd'hui mon associé, qui, à l'époque, donc, avait un boulot, avait un CDI. Il approchait de la trentaine, on n'avait pas du tout le même âge. Moi, j'avais. Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans et ça, c'était il y a 5 ans. Voilà, j'avais 21 ans. Il me dit ça, donc on se retrouve quelques semaines plus tard pour un café, parler du projet. Il m'aide vraiment sur la partie financement, mais lui, il avait son CDI tout bien. Il avait passé quelques années en audit, en effet, juste avant. Mais il commençait à s'ennuyer un peu dans son boulot parce que il se trouvait pas hyper stimulé. Il trouvait que ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Donc il faisait des choses à côté, plus comme un hobby, un peu comme moi au début, pour s'aérer l'esprit en fait. On fait un café, puis un autre déjeuner, et puis on se rend compte que vraiment on est très complémentaires sur les compétences. Et on se dit, bon, bah écoute, travaillons dessus. Et finalement, on décide de lancer le projet ensemble. Donc là, moi je suis encore en première année master, lui il a encore son boulot. Et en fait, on se fait du 20h minuit pendant 3 mois pour bosser sur le projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, on a lancé la boîte en juillet 2016. Donc moi, il me restait encore une année d'études et Adrien a quitté son boulot. Et je me souviens, bah, moi, au départ, je cherchais quelqu'un d'autre avec qui me lancer parce que je ne pensais pas qu'Adrien lâcherait tout pour moi. Et en fait, il m'a dit, écoute, faisons-le ensemble. J'ai bien réfléchi. Adrien est très posé, très raisonnable par rapport à moi. Et il m'a dit, bah, écoute, franchement, ça marche hyper bien entre nous, l'association. Donc, si ça ne marche pas, on vendra des chaussettes ensemble. Je ne sais pas, on s'en fout, mais on arrivera à vendre des trucs ensemble. Et donc, juillet 2016, on lance la boîte et on lance en se disant comment est-ce qu'on peut lancer en ayant 0 euro, en fait, parce qu'on voulait pas investir l'argent tout de suite et on voulait tester. Et donc, on a, à l'époque, ça s'appelait Vegan My Day. On a créé un compte Insta où on a commencé à partager des recettes et à voir comment les gens réagissaient. Et on a fait quand même des paniers prêts à être cuisinés qui étaient vegan, bio, locaux, livrés Paris intramuros et où, en fait, une fois par semaine, tu recevais tout ce qu'il fallait pour cuisiner un repas pour 2 personnes. Voilà. Mais des paniers vegan bio locaux, c'était pas du tout dans l'optique de démocratisation dans laquelle on est aujourd'hui et dans laquelle on voulait être. Et donc, en fait, on a utilisé ça pour, un, générer de l'argent parce qu'en fait, les clients commandaient leurs paniers avant que nous, on paye nos fournisseurs, qui à l'époque était le Naturalia d'en bas, je précise. Et deux, pour commencer à créer une communauté et avoir, en fait, des bêta-testeurs de produits qu'on voulait destiner plutôt à la grande distribution, puisqu'on voulait être accessible. Et donc, voilà, le point de départ, c'était il y a bientôt 4 ans. En juillet 2016, on a créé la société.
Et du coup, aujourd'hui, vous vendez des boules. Mais alors, je n'entends pas dans ton parcours de formation ou de passage par une école de cuisine ou même de chimiste pour apprendre à composer des recettes. Pourtant, c'est toi qui les fais, les recettes.
Ouais, alors en fait, je me suis vraiment plongée dans l'alimentation. J'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de choses sur l'alimentation. Quand j'étais en Chine aussi, j'avais m'étais beaucoup intéressée à la médecine chinoise. Et j'avais eu un cours d'histoire de l'alimentation qui avait été juste passionnant. Et c'est là où je m'étais rendu compte que manger des protéines animales, c'était pas naturel, entre guillemets. En fait, ce cours-là, il m'a vraiment passionnée sur l'alimentation. Et il fallait d'ailleurs écrire une autobiographie alimentaire, qui était juste, je pense, le boulot que j'ai le plus préféré de toute ma scolarité. Et j'avais toujours eu un rapport assez particulier à l'alimentation, parce qu'en plus, j'ai eu une petite période anorexique, comme beaucoup de jeunes femmes quand j'étais ado. Et donc, en fait, travailler sur Funky Veggie et l'amont de Funky Veggie, pour moi, c'était faire la paix avec tout ça, et comprendre enfin que l'alimentation, c'était source de plaisir, mais pas que, et que, en fait, ça allait main dans la main, que le plaisir n'était pas contre la santé, au contraire. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée via plein de livres. J'ai beaucoup appris. J'ai fait une petite formation de naturopathie, mais vraiment juste des petits ateliers du soir pendant un moment. Donc, j'ai beaucoup absorbé. Moi, je suis vraiment une sorte de petite éponge et très bonne élève de base. Donc, en fait, tu me donnes du contenu, j'assimile vite. Et donc, j'ai commencé à avoir une alimentation qui était naturelle et plus végétale. Enfin, en fait, végétale, puisque j'ai été végane pendant 2 ans, pendant un moment. Et je faisais chez moi les fameuses boules d'énergie qu'aujourd'hui on voit un peu partout, les energy balls, mais à l'époque, pas du tout. Et en fait, ça existait en distribution, mais à l'étranger, et avec souvent une tonne de protéines à l'intérieur, beaucoup d'additifs, tandis que moi j'en faisais à la maison. Donc en fait, on a commencé à travailler sur ça, et à en envoyer aux gens qui commandaient nos paniers, qu'on appelait paniers, YEAH à la fin, d'ailleurs, toujours. Toujours la petite touche. Et en fait, on a senti que ça a pris, que ça commençait à prendre. On a testé plein d'autres choses. On a testé des préparations pour gâteaux. Donc, t'as tous les ingrédients secs, t'as plus qu'à ajouter, je sais pas, du lait végétal, par exemple. On a testé plein de choses, mais ça, c'est ce qui prenait le plus. Et en fait, on a eu une bonne étoile. Alors, on a eu beaucoup de bonnes étoiles. Après, maintenant, quand je regarde en arrière, franchement, j'ai eu beaucoup de bonnes étoiles. J'ai eu beaucoup de persévérance aussi. Et, ça se voit quand on voit que j'ai quand même fait 3 startup week-ends où je me suis pris bâche contre bâche. Puis finalement, la bonne étoile est arrivée, c'était Adrien. Mais il y a un autre homme qui est arrivé dans nos vies avec Adrien et qui a beaucoup fait changer les choses. C'est Jean-Paul Mocher. En fait, c'est le directeur général de Monoprix, Franprix et Naturalia. À l'époque, c'était juste le directeur général de Franprix. Et un peu par hasard, en fait, je pense qu'au début de la boîte, avec Adrien, on prenait toutes les opportunités qui pouvaient se présenter. Mais vraiment, je sais pas, il y avait un besoin de traiteur à 50 minutes de Paris non rémunéré. Je pense qu'on y allait. Vraiment, on prenait tout, 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 parce qu'on voulait tester, on voulait apprendre. Ce qui n'est pas une bonne chose à faire dans la durée, mais au début, en tout cas, je pense que c'est important. Donc, on va à un concours organisé par Franprix, où on ne pensait pas trop avoir notre place, mais à un événement juste avant, donc on s'était planté juste pour faire découvrir nos produits de manière gratuite, il y avait une stagiaire de chez Franprix qui était venue nous voir en nous disant, venez faire ce concours. Donc, on se pointe, on présente notre idée de boule. Et on avait un vieux pack commandé sur Pixar Printing et un graphisme fait par un mec qui était à Sciences Po avec moi. Donc on avait un pack pour les trois parfums, je me souviens. On présente le projet. Et avant même la fin, à la pause, Jean-Paul Mocher vient nous voir et nous dit bon, vous gagnez ou pas, votre truc est top, vous avez le peps, je veux lancer votre truc. Et donc Franprix a décidé de lancer nos produits en test dans 50 magasins. Et donc nous, évidemment, on a hoché de la tête en disant oui, bien sûr, tout à fait, oui, on a un lieu de production, alors qu'on produisait moi-même dans notre cuisine, enfin nous-mêmes dans ma cuisine. Et puis voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc c'était en fin 2016, c'était en novembre 2016. Ils voulaient tester chez Franprix d'ici 2 semaines. Nous, on n'était pas prêts du tout. En plus, c'était pas du tout ça notre plan dans notre tête. Nous, on se disait, OK, en fait, on va commencer par des points de vente indépendants, on va aller voir la grande épicerie, et puis après, peut-être qu'on ira voir d'autres gens. Mais déjà, la grande épicerie, ça nous semblait, tu vois, le bout du monde, quoi. Et donc, on a loué un labo. Adrien a fait une petite formation d'hygiène, qui était réglementaire. Moi, il faut savoir quand même que j'étais en cours, hein, à ce moment-là. Donc, quand on passe le concours, moi, après, je cours pour aller passer un examen, je me souviens, encore un. Et puis, en fait, on passe... tout un mois au moins, à produire nous-mêmes dans un labo à Paris et à appeler tous nos potes pour nous aider à produire. Et ça a été un gros filtre de potes, d'ailleurs. Et du coup, on commence à produire et on se dit, OK, très cool si on arrive à produire, mais je me souviens qu'il fallait livrer 2000 unités pour Franprix. Mais si les produits arrivent en magasin, mais qu'en fait, personne ne les achète, on va partir aussi vite qu'on est arrivé, parce que c'était quand même un test et qu'ils voulaient voir si ça performait ou pas. Donc, on se dit, OK, on fait une campagne de crowdfunding, comme ça nous aide un peu à financer le matos pour produire, et surtout, ça nous permet de créer une communauté et de faire en sorte que ces gens qui nous soutiennent via KissKissBankBank, le jour du lancement, aillent en magasin et aillent acheter les produits. Et c'était ça qui était important, c'est que les gens achètent le produit. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé en express, en 10 jours, je me souviens que KissKissBankBank nous a pris pour des fous, une campagne qui s'appelait Par amour des boules, qui était très, très décalée, qui était franchement rigolote. Et en parallèle de ça, notre communauté Instagram commençait à monter un petit peu. Et donc, en février 2017, on lance un test chez Franprix. Et ça se passe bien. Ouais, la campagne avait hyper bien marché. On avait fait 70% le premier jour. On a eu 400 contributeurs, il me semble. Donc ces 400 personnes sont tous allées dans leur magasin. Et puis Franprix a décidé de continuer à proposer les produits. Sauf que nous, notre problème à l'époque, c'était que bah on continuait à produire nous-mêmes et que c'était très très chronophage et très très fatigant. Et en fait, ça a été, je pense, le truc le plus difficile depuis le début, c'est que ça a pris 1 an et demi pour qu'on réussisse à trouver quelqu'un qui voulait bien produire pour nous, parce que c'était un produit qui était tout nouveau, qui était cru. Personne ne savait le maîtriser. Donc c'était très 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 compliqué. Et on a à ce moment-là pris une stagiaire agro, Zoé, qui est ingénieure agro, qui aujourd'hui est notre responsable produit, qui a été notre premier CDI, et qui nous a vraiment aidé pour vraiment externaliser la production. Et on a commencé à produire ailleurs seulement fin 2017. Et là, on a pu du coup... bah, passer à davantage que 50 francs prix parce que jusque-là on ne pouvait pas produire pour plus, puis on n'avait pas le temps de s'en occuper et voilà, s'ouvrir peut-être à d'autres points de vente, à d'autres enseignes et tout ça.
Waouh, quelle superbe
Ça,
histoire!
c'était
J'ai
le
l'impression
chapitre 1,
que
la boule.
vous avez presque été dépassé par votre propre succès.
Ouais, bah au début on a été, franchement, là comme ça a l'air drôle, mais franchement au début c'était je me souviens de journées, moi pour moi la production c'était vraiment dur. C'est vraiment un truc que j'aimais pas faire. Bon, voilà, on avait nos blouses là, même quand il faisait hyper chaud en plein été, on transpirait de ouf. T'avais le mixeur à fond. Franchement, c'était pas du tout agréable. Et là, j'ai été très découragée à ce moment-là. Déjà, le truc, c'est que à chaque fois, on pensait que ce serait dans, je sais pas, dans 2 semaines que ce serait fini. Donc, je me souviens que si on m'avait dit dès le début, ce sera fin 2017, j'aurais peut-être pas signé. Mais comme c'était à chaque fois une échéance qui était repoussée, finalement, bah, tu réfléchissais pas, t'avançais pas, après pas. Et ouais, non, c'était pas très fun comme période. Et puis en plus, à l'époque, les gens nous prenaient pas trop au sérieux parce que bon, il y avait Franprix, mais il y avait que Franprix. On était aussi un peu regardés de haut par bah, les points de vente indépendants. Et les magasins bio, parce que on avait pactisé avec l'ennemi en étant dans une ancienne grande distribution. Donc vraiment, c'était assez dur. Puis en fait, en 2018, c'est là où on a commencé vraiment à prendre du recul, à prendre notre envol. Et en fait, on avait identifié qu'on pouvait rendre la boule encore plus gourmande en faisant un cœur fondant. On avait vu que c'était possible, donc on a eu une bourse de la BPI, de la banque. Banque publique d'investissement, exact. Pour travailler sur le process de fabrication de cœur de boule, qui est le même principe, mais avec un cœur fondant. Ça nous a pris un an. Et puis finalement, on a lancé cœur de boule, qui est la même chose, mais avec un cœur fondant. Donc vachement plus gourmand et totalement dans le message qu'on donne autour du plaisir. Et puis ça a pris de plus en plus de place. Et là, la boucle est bouclée, puisqu'il y a un mois, on a annoncé qu'on arrêtait les boules. Et bon, depuis, on a lancé aussi une gamme petit déjeuner et une gamme apéro. Un des trucs qu'on avait dû mettre de côté à l'époque, c'était le bio. Parce que, bah, en fait, il fallait assurer une marge aux enseignes qui nous distribuaient. Et il fallait voilà, avoir une structure de coût qui était saine. Et du coup, on ne pouvait pas se permettre de rester bio en se lançant avec Franprix, en se lançant au début. Et du coup, on s'était dit, bon, bah, on fait l'agriculture raisonnée, on fait de notre mieux, et le jour où on grandit, on a plus de volume, donc on peut gagner un petit peu sur nos coûts, et ben, à ce moment-là, peut-être que on passera tout au bio. Et là, voilà, on est enfin arrivé, on a maintenant tout passé en 2020 au bio, au label bio, sans changer nos prix.
Je voudrais qu'on vienne justement un instant sur les produits et la composition, parce que je pense que c'est... Alors, contexte pour celles qui découvriraient mon parcours à moi dans cette interview, mais je suis végétalienne depuis assez longtemps et j'ai vu arriver en France la tendance vegan, comme tu disais tout à l'heure. Je pense qu'un point qui est... Enfin, c'est très à la mode en ce moment d'étiqueter les produits comme bio, vegan, naturel. Enfin, naturel, ça veut rien dire naturel, mais alors aujourd'hui, tout est naturel. C'est un argument de vente. Et ça ne renforce pas, je trouve, la confiance des consommateurs et des consommatrices quand tu vas dans un rayon et tout est passé à du marquage vert, à du... Voilà, ouais, voilà, des étiquettes du marketing qui rappellent la nature, etc. Et pour des produits dont la composition, dès que tu retournes et que tu lis la liste des ingrédients, c'est au troisième ingrédient, tu sais déjà plus le lire tellement c'est un nom chimique indéchiffrable. Enfin bref. Et toi, tu me le disais, ta démarche, ça a été d'abord un retour à une alimentation saine. Du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'il y a dans vos produits chez Funky Veggie, sur quoi vous vous basez pour faire ces choix-là, et comment vous vous débrouillez pour réussir à produire ça, parce que, enfin, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est à l'autre bout du monde, tu vois, de venir un peu sur, enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de marques font du bio, vegan, naturel, etc. Donc, qu'est-ce qui vous distingue de toutes ces marques qui font un marketing très performant sur ça?
Bah, alors nous, une des expressions qu'on a utilisées au début et qu'on continue d'utiliser, c'est rien de bizarre à l'intérieur. Et à chaque fois, on le détaillait, donc pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur. En fait, rien que tu puisses pas comprendre directement et avoir dans ta cuisine potentiellement. Donc rien de bizarre à l'intérieur, pas de sucre raffiné non plus, pas de gluten. Ça, c'était parce que en fait, Adrien et moi, on était sans gluten. et vegan, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, on pense que c'est ce qui a le plus d'impact sur la planète. D'ailleurs, il y a ce cahier des charges qui est très très exigeant. Mais pour nous, en fait, la transparence est le plus important, tu vois, au point que bah, là, avant-hier, j'ai filmé sur Insta et on l'a mis sur IGTV la recette du cœur de boule. Donc, c'est des recettes vraiment que tu pourrais refaire à la maison, qui sont simples et qui n'ont pas d'additifs autres que ce que tu pourrais trouver à la maison. Donc, il y a ça. Après, en fait, c'est en effet très 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 compliqué pour nous le développement de produits. En général, tout ce qu'on fait commence d'idées cuisine. Et c'est là où on trouve notre inspiration, c'est là où moi je trouve mon inspiration, beaucoup Insta, beaucoup Pinterest, et beaucoup de tests en fait, plus ou moins malheureux en cuisine. Donc voilà, déjà on se dit si tu peux le faire dans ta cuisine de manière simple, c'est une première étape. Et après, bon, il y a quand même toute une partie de veille aussi de ce qui se fait ailleurs. Et après, bah, ça, c'est le boulot de Zoé aujourd'hui qui est un boulot monstrueux. C'est qu'en fait, on arrive avec une idée de produit, on a un cahier des charges hyper exigeant, ou alors on arrive avec un référentiel, tu vois, sur l'apéro boule, bah, on regarde tout ce qui se fait en apéro et on se dit, OK, mais bah, en fait, c'est pas satisfaisant parce que y a une tonne de gras, que rien, la Natuca, elle est catastrophique du coup, même si c'est pas la Bible, hein, la Natuca, mais c'est quand même des indicateurs qui sont intéressants. Donc, OK, comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose d'aussi gourmand que ce qu'on peut trouver, mais avec des compositions plus fines? C'est ce qu'on a fait en devant de caisse avec Cœur de Boule, et c'était pour ça que c'était très important pour nous de commencer par du snacking sucré, parce qu'en devant de caisse, tu trouves que des produits ultra transformés et avec des compositions catastrophiques. On l'a fait ensuite sur l'apéro et sur le petit déjeuner de la même manière. On s'est dit, OK, quand tu regardes le rayon petit déjeuner, quand tu regardes la pâte à tartiner, le seul claim que des gens mettent en avant, c'est le sans huile de palme. Mais les gars, c'est juste la moindre des choses. C'est pas possible. On s'est dit, OK, bah, nous, on va faire une pâte à tartiner sans huile du tout. Et donc, ouf, c'est la première pâte à tartiner bio, sans huile du tout, moins 50% de sucre aussi, etc. Donc, voilà, c'est à la fois pas mal de tests, nous, de notre côté, puis c'est aussi une veille constante de notre communauté sur Instagram. On regarde qu'est-ce que les gens aiment, on fait beaucoup de sondages avec eux, on voit quels sont les posts, quels sont les ingrédients qui plaisent le plus. Et puis, on regarde ce qui existe et on se dit, bon, OK, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut apporter dans ce rayon? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que demain, le supermarché, ce soit un endroit avec un peu moins de bullshit et avec un peu plus de produits avec des compositions clean? Et après, bah, du coup, Zoé est en charge de traduire nos idées et nos recettes maison en formulation agro et puis de trouver des gens qui pourraient produire pour nous. Alors, sur le lieu de production, tu posais la question. Donc en fait, nous, pour chaque gamme, on a un lieu de production différent. Donc pour le snacking sucré pour Cœur de Boule, on produit dans la Drôme. C'est une entreprise familiale qui vraiment a développé le process avec nous, donc on travaille main dans la main. Et on conditionne les produits dans un ESAT, donc pour soutenir l'insertion de personnes en situation de handicap en Île-de-France. Donc ça, c'est pour Cœur de Boule. Pour Ouf la pâte à tartiner, c'est en Haute-Savoie et c'est à peu près le même schéma. Là encore, à chaque fois, nous, on développe le process de production et après, on trouve quelqu'un pour nous aider à le faire. Et on s'occupe de tout le sourcing des matières premières et tout ça au début. Et après, pour l'apéro boule, nous, quand on s'est lancé, on voulait absolument que ce soit déjà bio au lancement. Et on n'a pas trouvé de partenaire en France qui nous a pris au sérieux parce que nos volumes n'étaient pas assez grands, parce qu'on n'était pas une grande entreprise de l'agroalimentaire. Et il y a surtout des grosses entreprises dans l'agroalimentaire. Et du coup, on n'a pas trouvé en France, on est en Allemagne, pays où ils sont plus habitués au naturel et au bio. Et où du coup, ils ont été d'accord pour se plier à notre cahier des charges qui était très exigeant et qui demandait de faire pas mal de recherche et développement. Voilà, avec la volonté pour nous de développer tous nos prochains produits et peut-être de rapatrier tous nos produits pour que ce soit vraiment tout made in France.
Ok, je voudrais te poser une question plus sur l'aspect nutrition, notamment autour du sucre, parce que ça, j'ai vu que c'était une claim qui était vraiment mise en avant sur le pas de sucre ajouté. Et c'est aussi un sujet que j'ai beaucoup vu surgir dans l'actualité ces dernières années autour du sucre, le grand méchant sucre, c'est très mauvais le sucre. Et je pense que j'ai jamais vraiment compris la différence entre les sucres. Il y a une histoire de pic de glycémie, il y a une histoire de qualité de sucre. Je n'y connais absolument rien. Et d'ailleurs, je mange très peu de produits sucrés parce que ben, moi, j'ai intégré que le sucre, c'était pas bien. Du coup, est-ce que j'ai tort?
Non, alors c'est pas. Dans tous les cas, un aliment est un aliment et je pense qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Dans le livre que j'ai écrit, Ma vie en plus funky veggie, on collabore. Je suis beaucoup aidée d'une diététicienne nutritionniste qui s'appelle Alicia Sicardi, qui est un peu notre experte nutrition et qui voilà, casse beaucoup beaucoup de mythes. Donc dans le livre, on parle beaucoup d'alimentation intuitive et on parle des bases de nutrition, mais l'idée c'est de montrer que il n'y a pas d'aliment qui est diabolique. Non plus. Rien n'est mal en soi, tout est une question de dose. Manger quand on n'a pas faim aussi, c'est pas grave de temps en temps. Tout va bien. Donc déjà, je pense que les filles, il faut qu'on se fasse descendre la pression d'un coup là. Tout va bien sur l'alimentation, il n'y a pas un aliment mauvais par défaut. Donc le sucre, il est partout, quelque part, puisque déjà dans n'importe quel aliment, il y a du sucre au final. Dans les pâtes, dans le riz, il y a du sucre. C'est juste que ça prend plus de temps au corps pour le couper en petits morceaux et en faire le sucre tel qu'on aurait du sucre blanc. Ok? Donc, c'est juste qu'en effet, il y a un principe de glycémie qui fait que si tu manges un sucre, un produit qui est très sucré, sans fibres, donc si c'est pas un fruit par exemple, ou si, voilà, si c'est un sucre qui est raffiné, en gros, si tu prends un carré de sucre blanc, ça va monter ton pic de glycémie. Alors, je n'ai pas la mécanique exacte en tête, mais on avait fait un article sur le sujet, mais en gros, ça va donner envie de sucre très très peu de temps après, et ça va épuiser ton organisme, parce que en fait, tu le fatigues en faisant ça, et juste, tu vas rentrer dans une spirale où le sucre appelle le sucre, et où tu vas toujours avoir des fringales. Donc, c'est pour ça que, par exemple, souvent, on conseille de commencer, si on a envie, par un petit déjeuner salé plutôt, parce qu'en fait, commencer sur une note salée, ça permet de réguler la glycémie au cours de la journée, de ne pas avoir envie de sucre tout le temps. Mais en effet, il y a sucre et sucre. Mieux vaut privilégier des sucres qui sont non raffinés, typiquement le sucre de coco ou du muscovado. Et après, le mieux, en effet, c'est de trouver des sucres naturels. Le sucre de coco, nous, c'est un sucre qu'on utilise. C'est le seul sucre qu'on utilise qui est dans la pâte à tartiner, puisque dans la pâte à tartiner, on était obligé quand même d'ajouter un petit peu d'aspect sucré. Parce que donc, le sucre de coco, c'est celui qui a l'indice glycémique le plus faible et en plus qui est le plus intéressant pour l'environnement. Il a été nommé sucre le plus durable par l'ONU, même si je ne trouve toujours pas la source de cette info, même si je la vois partout. Donc si quelqu'un a cette source, je suis preneuse. Donc le sucre de coco, il est très intéressant. Et après, nous, sur nos snacks sucrés, on utilise la datte. Et le sirop de date, le sucre de date, c'est des sucres qui sont intéressants parce qu'en effet, ils ont aussi des indices glycémiques qui sont plus faibles. Et surtout, comme ils ont des fibres et des vitamines et des minéraux, ils apportent autre chose que juste le sucre. C'est ça qui est important, c'est qu'un aliment, ça n'apporte pas juste un certain taux de protéines et de glucides et de calories. Déjà, ça apporte le plaisir qu'on a à manger. Donc, c'est le plus important. C'est comment est-ce qu'on va le savourer. Et en plus, ça apporte plein d'autres choses qui peuvent nourrir à la fois notre corps et notre esprit. Voilà, nous, on privilégie les sucres qui sont les plus bruts possibles, qui sont les moins transformés possibles, qui sont, voilà, comme la datte des fruits, en fait, des fruits secs, voire des vraies purées de fruits sur nos prochains produits. C'est quelque chose qu'on est en train de faire.
J'y vois un peu plus clair. Merci beaucoup pour ces explications. Je pense qu'on va... Alors, j'avais une dernière question sur la partie vraiment entreprise. Et après, je te propose qu'on passe à la partie parcours sur le questionnaire des impertinentes. Dans tout ce que tu as raconté tout à l'heure sur la création d'entreprise, sur le développement des produits, je t'entends très peu parler de risque, alors que c'est, je pense, le mot-clé que j'aurais associé spontanément à entreprise, risque. C'est prendre des risques, c'est risqué, c'est compliqué. Et est-ce que cette notion de risque, c'est quelque chose qui était avec toi pendant ces années-là? Est-ce que tu t'es demandé parfois, régulièrement, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que je ne serais pas mieux avec un CDI quelque part? Est-ce que cette notion de risque, elle t'a pesé? Ou est-ce que c'était un moteur? Ou est-ce que c'était une inconnue qui flottait un peu très loin de toi?
Je suis assez confiante, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà le fait d'avoir créé la boîte quand j'étais encore étudiante, finalement, c'était aussi une chance dans la mesure où, tu vois, je devais pas rapporter un salaire à la fin du mois. Il me restait un an d'études. C'était pas grave, en fait, que juste je fasse pas les soirées BDE. C'était pas grave si c'était, voilà, c'était une expérience pour moi et pour apprendre. Et je me disais pas qu'il fallait que j'aille tout de suite un CDI. Et en fait, à la fin de mes études, on était en salle, on était en cours à Sciences Po, et je me souviens que dans mon master en communication, tous les élèves de communication, les uns après les autres, reçoivent le même coup de fil de L'Oréal qui propose un entretien pour un boulot. Donc, ils faisaient un peu leur pêche chez les masters communication de Sciences Po. Et je me souviens leur dire, bah écoutez, voilà, moi j'ai lancé ma boîte, mais si ça prend pas, est-ce que je peux vous appeler dans un an? Et je me suis dit, voilà, écoute, je me donne un an pour voir si j'ai un horizon de pouvoir me payer. Et voilà, en fait, c'était comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, au pire, cette expérience, je pourrais la revendre d'un point de vue professionnel. Et bah, j'ai eu un luxe qui est que j'avais mes parents qui me soutenaient et qui étaient OK pour me soutenir un an. Et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est une énorme chance que j'ai eue. Et j'avais un associé. J'ai un associé en fait, moi, je suis le penchant très optimiste, très confiant, et lui, c'est l'inverse. Lui, il est dans les chiffres, il est souvent pessimiste. Et donc, en fait, moi, mon rôle, c'est toujours de contrebalancer le truc. Et donc, en fait, tu vois, je me posais pas la question parce qu'en fait, Adrien gère toujours les mauvais scénarios. Donc, je sais qu'en fait, quelqu'un y pense et que moi, je peux juste avancer et faire mon truc. Et puis, bon, tu vois, si on se casse la gueule, on se casse la gueule. Mais en fait, l'enjeu, au début, il était franchement pas énorme. Et comme on a commencé avec des bases qui étaient très saines, sans aller voir d'investisseurs, il n'y avait pas trop d'enjeux. Et le jour où on est allé voir des investisseurs, bah, les bases étaient saines. Donc, et puis voilà, on est allé voir que quelques jeunes investisseurs. On n'a pas fait de levée de fonds comme beaucoup de boîtes. Donc voilà, en fait, déjà, il y avait une partie qui n'était pas trop d'enjeu. Et puis au-delà de ça, je pense que je suis une nature un peu insouciante. Et oui, j'ai eu des gros moments de découragement et de risque et de où je me disais, et ça n'a pas tellement de sens. Puis tu commences à voir les gens autour de toi qui commencent à avoir leur premier boulot, qui ont des salaires super sympas, qui ont plein d'afterwork, enfin qui ont des moments. Et en même temps, je voyais les potes d'Adrien qui, eux, étaient autour de la trentaine. Et je me souviens avoir fait l'anniversaire d'Adrien de ses 30 ans au tout début quand on a créé la boîte. Et entendre tous ces potes qui étaient là à parler de leur taf et de leur galère et du fait que, bon, oui, ils étaient bien payés, mais qu'en fait, à part ça, c'était pas ouf. Et je me disais, ok, j'ai pas du tout envie de me rentrer là-dedans. Je pense qu'une fois que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et que tu bosses pour toi-même et que tu fais quelque chose qui te fait kiffer sur certains aspects, parce qu'il y a quand même plein d'autres aspects qui sont beaucoup moins kiffants, aujourd'hui tu me dirais va bosser pour quelqu'un. Je suis incapable. Incapable. Je suis pas adaptée du tout. Donc bon, je me suis lancée, je ne pouvais plus du tout faire marche arrière, quoi.
Donc aujourd'hui, si tu devais revenir en arrière pour te parler Camille, 21 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant tout ça?
Je pense que franchement c'est dur. Je dirais écoute fais ton truc. Il y a une certaine arrogance quand tu crées ta boîte parce qu'il y a, ce truc de genre, enfin tu vois, tu vois très grand, t'es très, t'as plein d'étoiles dans les yeux. Et en même temps à côté de ça t'as des moments où juste t'as l'impression que tout ce que tu fais c'est nul et que ça sert à rien. Donc je pense que j'aurais dit écoute voilà continue pas à pas. Je pense qu'il faut pas regarder forcément la big picture trop vite. Enfin oui, faut avoir en fait un cap à se donner, mais faut pas se dire ah ok il faut que je sois là dans 6 mois et tout. Juste avancer pas à pas, savoir comment faire des conneries, mais que c'est ok, que tout vient en temps voulu. Mais franchement, je saurais pas comment dire. Genre, je me dirais bah, écoute franchement ce que tu fais, si ça te fait kiffer, continue et te compare pas. Franchement, te compare pas. Ça c'est un des vrais sujets quand tu crées ta boîte, mais toujours. C'est juste faire son truc en fonction de ce qui allume quelque chose chez soi ou pas. Et du voisin, on s'en fout totalement.
Merci beaucoup Camille, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, je trouve que ça dit beaucoup sur le parcours que tu as eu, le fait que tu n'aies pas vraiment de conseils précis à te donner si tu pouvais revenir en arrière. Pour moi, de l'extérieur, ça veut dire que tu t'es beaucoup écouté, que finalement, tu as beaucoup suivi tes intuitions et que ce que tu as appris, c'est des leçons que tu es contente d'avoir apprises finalement et que si tu pouvais revenir en arrière, tu t'éviterais pas les difficultés que tu as eues, voilà, tu prendrais pas une ligne plus droite, un chemin plus rapide, t'as apprécié l'expérience. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ça.
Peut-être que je dirais, genre, profite du parcours. Parce que je me souviens, voilà, les journées de production qui étaient longues et tout, où je me disais, putain, mais c'est horrible, ça fait trop chier. Je me disais, tu sais quoi, tu chériras ces moments plus tard et ces souvenirs plus tard. Donc, juste enjoy the process et vas-y à fond, quoi.
Merci. Je voudrais qu'on passe maintenant, si tu veux bien, à la partie sur ton adolescence. Dans le questionnaire des impertinentes, j'aime bien revenir un petit peu à l'adolescence parce que je pense que c'est une période charnière, même si on en a parlé rapidement au début de cette interview. J'aimerais que tu choisisses un âge dans l'adolescence. Tu m'expliques pourquoi cet âge et puis tu te décris à quoi tu ressemblais, comment tu t'habillais, quel type de musique t'écoutais, quel type de personne tu fréquentais, dans quoi tu te projetais. Je voudrais une photo de Camille. À quel âge du coup?
Je vais te dire 16 ans. 16 ans, 15-16 ans, c'était une période qui était vraiment particulière pour moi parce que j'ai toujours été hyper, très introvertie en fait. J'avais pas trop de potes moi jusqu'au lycée. Enfin, j'avais genre des meilleurs amis, mais j'étais pas du tout la fille populaire. J'étais l'inverse. J'étais la fille qui voulait être pote avec la fille populaire, mais personne voulait lui parler. Et j'étais très très bonne élève et je pense que ça saoulait beaucoup de gens. J'étais vraiment la petite fille relou qui levait la main tout le temps. J'étais vraiment cette personne insupportable à l'école. Mais j'étais vraiment dans un monde. Moi, j'étais très préservée. J'ai grandi dans une famille qui était très bourgeoise, qui était aisée, qui est aisée. Et j'ai vachement eu honte de ça pendant un moment. Et ouais, j'étais très préservée. Tu vois, je vais dans le 7e à Paris. Moi, c'est mon voyage en Chine et c'est mes années quand j'étais à l'université qui m'ont fait ouvrir les yeux. Mais avant ça, voilà, j'étais très dans mon petit monde avec ma petite maison, mes petits-parents, tout ça. Quand j'avais 16 ans, j'étais dans un lycée public et c'est là où vraiment je me suis fait mes vrais premiers potes qui sont toujours mes meilleurs potes. Et où, en fait, avant ça, j'étais dans un lycée privé catholique. Et là, je suis arrivée dans un lycée public quand même. Donc, c'était quand même différent et je me suis ouverte à d'autres choses. J'étais un peu l'ovni parce que j'étais, déjà avant, j'étais juive dans un lycée, dans un collège, école privée catholique. Donc, j'étais un peu la seule, laissée de côté. Et là, en fait, enfin, j'avais un peu ma place et je me suis fait mes premiers potes. Alors, c'était une période qui était positive et négative aussi sur d'autres trucs. C'est juste au moment où j'ai fait ma petite phase d'anorexie. Je me souviens, c'était suite à une petite remarque de ma mère toute conne, mais que moi j'avais extrapolé de ouf et qui était devenu le truc le plus important de ma vie. Donc c'est un moment où je suis descendue à 38, 39 kilos. Je fais 1m63, 4, je devais faire 1m60 à l'époque. Mais c'est un moment où j'avais l'impression de reprendre ma vie en main en fait. Parce que c'est le moment où j'ai choisi de pas faire d'école d'art, mais de préparer plutôt des CAGNES ou un truc comme Sciences Po. C'est le moment où je me suis battue avec mes parents pour faire L, alors que tout le monde voulait que je fasse S. Et où du coup, j'ai adoré en fait, je me suis plongée à fond là-dedans. J'ai adoré la L et lire des livres et les travailler. Donc voilà, c'était un moment assez charnière sur ça. Et après, physiquement, bah écoute, du coup, j'ai eu cette petite phase anorexique où j'étais très, très maigre. J'étais comme aujourd'hui brune. J'étais lancée. Et je me marrais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes potes que je me tais fait depuis pas très longtemps. Mais vraiment, c'est des années où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Ma seconde, ma première à ma terminale, c'était hyper drôle.
Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'adolescente que tu as été?
Bah, attendrie, en même temps, je pense un peu excédée sur certains trucs. Je pense que j'étais assez arrogante à l'époque. Ouais. Et que, en fait, je voulais absolument être la meilleure sur tout et tout, et ça sert à rien du tout. Et il y a une partie de moi qui est en mode, oh, je pourrais pas supporter cette fille aujourd'hui. Et en même temps, beaucoup d'attendrissement, je pense que c'était un moment où je cherchais beaucoup de reconnaissance. Et aujourd'hui, j'ai totalement fait la paix avec ça. Et je pense qu'au début de Funky Video aussi, il y avait une sorte de quête de reconnaissance et de validation extérieure. Et petit à petit, j'ai fait la paix avec ça et je me suis rendu compte que ça pouvait être un moteur parfois, du moment que ça ne le restait pas indéfiniment. Aujourd'hui, ça l'est plus, mais peut-être qu'il y a une partie de moi quand même qui cherche ça. Mais je pense que voilà, 15-16 ans, mais j'avais de tout mon corps envie que tout le monde me dise que tout allait bien et que j'étais OK et que j'étais validée.
Et cette adolescente, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi?
Bah écoute, je pense qu'elle serait contente. Je pense qu'il y aurait certains aspects où... Ouais, non, franchement, je pense qu'elle serait contente. Elle était très fixée sur le corps, cette adolescente-là, à l'époque. Elle serait déçue, peut-être déçue que je sois pas maigre aujourd'hui. C'est con à dire, mais je pense que c'est important. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Et voilà. Mais de manière générale, je pense qu'elle serait fière de moi, qu'elle serait fière de mon taf, mais elle serait fière aussi, je sais pas, de mon couple. J'aurais jamais pensé, en fait... Je pense qu'à l'époque, quand t'es ado, tu te dis être amoureuse, c'est forcément être dans une relation qui est passionnelle, qui est compliquée ou qui est pas forcément toujours bienveillante dans les deux sens et tout. Et j'ai eu des relations comme ça qui étaient destructrices et où t'avais pas forcément d'indépendance et où en fait ça faisait mal. Mais je croyais que c'était comme ça, que c'était cool. Ça fait 4 ans maintenant que je suis avec quelqu'un avec qui voilà, tous les deux, on s'épanouit, on est indépendant et on s'aime plus que tout et c'est con, mais je pense que c'est un des trucs dont je serais fière si je me regardais. Et ça passe par beaucoup de bienveillance envers soi-même, et c'est le seul truc que ça m'a permis de faire. Enfin, c'est pour moi l'essentiel, quoi. Donc j'ai gagné en bienveillance envers moi-même, et donc je suis fière de ça, et je pense que j'aurais été fière de moi, même si je sais pas si je l'aurais compris à l'époque, que la bienveillance envers soi-même, c'était aussi important.
Camille, la partie suivante, c'est un choix. Je vais te demander de choisir. Soit on parle du film de ta vie. Donc, si ta vie était un film, je vais te demander quelle serait la bande originale, le déclencheur de l'intrigue, le méchant de l'histoire, etc. Soit on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce dans ta maison. Et dans ce cas, tu me décris qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, des couleurs, des principes de vie, des rituels, des leçons, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préfères, parler du film de ta vie ou de ta zone de confort ?
Les deux me placent bien, mais je pense que la zone de confort, et je veux dire la cuisine, parce que c'est quand même...
Ok. Alors, si on va parler de ta zone de confort comme c'était une pièce dans ta maison, ça peut être une vraie pièce et tu y rajoutes effectivement des éléments qui sont immatériels, comme ça peut être une pièce complètement inventée, derrière un mur, une porte, ta zone de confort. Et l'idée, je précise, c'est que celles et ceux qui nous écoutent puissent choper des petits trucs et astuces déco pour pouvoir aménager leur propre zone de confort.
Putain, maintenant je sais plus, peut-être que j'aurais dû faire le film. Je ne sais pas. Bon, écoute, lançons-nous.
Si ta zone de confort était une pièce, tu me dis, ce serait la cuisine. Pourquoi ?
Non, mais en fait, je pense que ce serait une zone hybride. Ce serait un truc chelou. Ce serait une cuisine ouverte avec une salle de yoga / bureau. Déjà, ce serait une pièce assez perchée avec une vue, parce que je suis assez perchée. Et parce que moi, j'aime bien avoir une chambre à moi, une salle un peu où je suis seule. J'aime beaucoup, beaucoup la solitude. Donc voilà, une salle un peu perchée, un peu hybride. Et il y aurait donc à la fois une cuisine fully equipped, avec tout, et nickel. Et je pense que tout serait très blanc, très immaculé, et beaucoup de choses dans les placards. J'aime bien avoir très peu de choses et voilà, avoir vraiment une vision dégagée. Et il y aurait un bureau devant une fenêtre avec plein de verre derrière. Et un tapis de yoga au milieu, voilà.
Pourquoi yoga ?
Bah pourquoi yoga ? Parce que j'en fais, j'aime bien ça déjà pour méditer. Et au-delà de ça, parce que ouais, je pense que je fais toujours un peu de sport. Là en confinement, bon bah je fais toujours un peu de sport quasiment tous les jours et je bouge et ça fait du bien et ça me permet de me recentrer. Et c'est un peu mon rêve d'avoir ma petite salle de yoga avec mon coussin pour m'asseoir, tu vois, tout ce qu'il faut pour être zen.
Dans ta zone de confort, est-ce qu'il y a des principes de vie, des citations, des leçons, des choses comme ça un peu immatérielles qui te permettent de te recentrer ou de te retrouver quand tu doutes ?
Ouais, alors il y a une phrase que je me répète depuis 10 ans, je pense, mais qui est un peu mon mantra, c'est « pessimisme de la raison, optimisme de la volonté ». Donc c'est « bon, écoute, quoi qu'il arrive, on s'en fout, t'avances et t'es optimiste dans l'action, dans les faits ». Il y aurait ça. Puis après, moi, je suis très, très perchée. Donc, j'ai tout le temps du Palo Santo, de la sauge. Je t'avais emmené d'ailleurs, Clémence, à un cours de Kundalini en plein air. Donc, je pense que tu sais quel point j'étais perchée. Je suis perchée.
Absolument.
Et ouais, des cartes. Moi, je tire les cartes assez souvent. J'ai un tarot, j'ai des trucs, mais avec toujours des illustrations qui sont hyper modernes.
Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu tires des cartes ? Parce que, bon, tu dis t'es perché, je me reconnais aussi dans ce que tu dis là, on a tous et toutes des croyances, je pense, et je me doute bien que si tu tires au tarot et que les cartes prédisent que ta boîte va couler, c'est pas pour autant que tu vas déposer le bilan dans la semaine, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, puisque ça n'est pas de la vérité scientifique ?
Déjà, je pense que ça m'apporte de l'ancrage. J'ai tendance à être très dans les airs, très, vraiment trop hyper concentrée sur ce que je fais, et du coup, un peu obstinée et têtue. Et en fait, faire ça, ça me permet de m'arrêter, de m'ancrer un petit peu, pareil que la méditation. Et ça me donne une dose de confiance, en fait. Parfois, voilà, il y a une phrase qui va résonner, parfois pas. J'ai l'impression que c'est quand même un petit coup de pouce, comme un petit clin d'œil de genre d'un truc extérieur que je pourrais pas nommer ou d'un truc qui est en moi-même, en fait, plus. Donc voilà, ça m'apporte un peu de confiance, un peu d'ancrage.
C'est un peu l'écho de la conviction, ce dont tu parles. C'est-à-dire, t'as déjà une conviction intérieure. Mais quelque part, c'est comme tirer à pile ou face et en étant contente ou déçue du résultat, ça conforte une sensation que tu avais déjà. C'est un peu ce que tu décris ?
Tu vois, c'est un peu genre, t'es le petit poussé et t'as des cailloux sur une route, tu vois. C'est un peu des rappels du chemin sur lequel t'es, quoi. Et ça permet aussi, parce que comme ces cartes qui sont toujours quand même super abstraites et tu vois, c'est pas très concret, ça permet aussi d'avoir une sorte de recul et de réfléchir et de se dire, ok, attends. À quoi ça pourrait faire référence. C'est pas forcément que ça fait référence ou quoi, je pense que c'est sûr que c'est une dose de croyance qui est énorme, et pour moi, voilà, une carte que je vais tirer va pas déterminer ma journée, mais ça me donne un sentiment de confiance et ça me permet de prendre du recul et d'aborder les choses de manière, je sais pas, plus sereine. Puis j'aime beaucoup les rituels aussi.
Par exemple, est-ce que t'as des rituels que tu décrirais comme faisant partie de cette zone de confort?
Ouais, bah j'écris tous les jours, tous les matins, c'est le premier truc que je fais. Donc je pense que c'est le premier truc, pour moi c'est ma plus grande thérapie d'écrire. J'écris pour moi, j'écris pas, enfin vraiment j'écris, enfin là pour le coup j'ai écrit le livre avec Larousse, mais c'était pas du tout le même exercice. Mais ce que j'écris le matin c'est vraiment mes poubelles mentales et j'écris juste pour moi. Donc ça c'est mes petits rituels. Après oui, enfin des rituels du genre je me lève, je me gratte la langue, qui est un rituel ayurvédique. Tu vois, un des trucs que j'arrive pas à arrêter, c'est le café. Parce que le rituel du café, de me faire un café, et de ce moment, du temps aussi d'aller dans un café à Paris, qui me manque énormément, ça fait partie d'un rituel que j'aime le plus. Donc ouais, j'ai pas mal de rituels, et puis mes journées sont assez, le matin est toujours assez ritualisé. Donc ouais, et dans ma salle, je pense qu'il y aurait quelques petits, il y aurait pas mal de livres aussi. Et pas mal de livres féministes et pas mal de livres aussi un des trucs moi qui m'a grave aidée c'est d'essayer de synchroniser mon travail avec mon cycle et de le considérer comme une force. Et bon, je suis pas du tout parfaite là-dessus, mais c'est un des trucs qui m'a le plus appris ces derniers mois.
Oui, alors ça, j'imagine que c'est un gros avantage d'être sa propre boss, c'est que tu peux décider de travailler moins ou de travailler différemment pendant tes règles ou quand ça va pas, quand tu as vraiment une baisse d'énergie.
Ouais, après le problème c'est que tu peux jamais dire je pars en congé et ciao et je peux pas du tout voir de mail de la journée. C'est mon gros défi de 2020, je m'étais dit que j'arriverais à me faire une semaine vraiment sans regarder mes mails du tout et en étant off totalement. Et je devais faire 5 jours qui sont tombés au début du confinement. Donc non. Et là le confinement pour nous est particulièrement intense d'un point de vue boulot. Mais écoute, je ne désespère pas, j'espère que je vais y arriver. Mais oui, c'est clair qu'après, je suis très libre. Le truc, c'est qu'en fait, c'est ta tendance à travailler plus quand tu bosses d'autres pour toi-même parce que tes horaires sont peut-être pas, tu finis peut-être pas à minuit, mais en fait, tu es tout le temps en train de regarder un peu. Enfin, c'est ton bébé, donc forcément, tu es toujours en train d'actualiser les dernières infos, les derniers chiffres, les derniers mails. Donc, je travaille sur moi pour moins actualiser, mais c'est dur. Mais oui, en effet, je prends du temps pour moi. Quand j'ai mes règles, je prends du temps pour moi. Je le dis pas forcément, mais voilà. Et je me justifie de moins en moins auprès de l'équipe, en fait. Au début, à chaque fois que je partais du bureau, je disais que j'avais tel ou tel rendez-vous. En fait, aujourd'hui, je dis rien et je m'en fous. Et donc, ça fait que si j'ai envie de sortir prendre un café puis de bosser après, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rentrer chez moi et de bosser plus tard ou pas, on s'en fout. Et je me justifie pas, quoi.
Tu emploies combien de personnes aujourd'hui?
Là, on est 11 avec Anna et
Wow.
moi. Après, il y a les lieux de production, du coup, que je compte pas.
Franchement, belle gosse.
Merci.
Merci beaucoup pour ce tour, cette visite guidée de ta zone de confort. On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée et pourquoi? Comment tu l'as dépassée? Si c'est quelque chose avec laquelle tu vis, ben, comment tu vis avec? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais, bah je pense que le moment le plus compliqué pour moi, c'était juste avant la création de la boîte. C'était quand je suis rentrée de Chine et que mon monde s'est effondré parce que je me suis rendu compte que le taf que je voulais faire, ça allait pas le faire. Que la personne avec qui je pensais vouloir être, ça allait pas le faire non plus. Que les valeurs dans lesquelles j'avais baigné depuis mon enfance, ça allait pas le faire non plus. Je me suis sentie complètement un ovni dans ma famille. Et voilà, j'avais l'impression de pas du tout avoir ma place. Donc j'ai dû créer mes propres démarches pour avoir mes propres règles au final, en fait. Mais je pensais pas qu'il y avait d'autres gens qui les partageraient avec moi. Donc ouais, ça c'est un moment très dur. Et après, pour être hyper transparente avec toi, et je pense que c'est une des premières fois que j'en parle, mais c'est important parce qu'à mon avis, toutes les filles qui nous écoutent, il y a beaucoup de filles qui ont le même sentiment. Le rapport au corps, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le plus gros challenge. Parce que c'est malgré moi, j'ai grandi dans un univers où être mince, c'était validé, c'était approuvé. Je suis mince, hein, mais je suis pas maigre, mais je suis tout à fait normale. Et en fait, le rapport au corps, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, j'adorerais m'en foutre totalement. Parmi mes meilleurs potes, tu vois, il y a Claire de chez Meuf Paris. On passe je pense 70% de notre temps libre ensemble, on est tout le temps ensemble. Et elle-même, elle me dit que, bah, elle-même, elle doit détricoter des trucs liés au rapport au corps, alors qu'elle a une marque qui rappelle tous les jours aux femmes à quel point elles sont fortes et à quel point elles ont le pouvoir. Pour moi, je pense que le plus gros challenge aujourd'hui, c'est détricoter tous les clichés qu'on a autour du corps féminin.
Effectivement, je pense qu'on est très très nombreuses à être en difficulté sur ce sujet. Teaser, mais j'espère avoir dans les semaines à venir des intervenantes également sur le sujet du body positive et en particulier donc sur le sujet du rapport au corps. Merci pour ce partage. Camille, tu es entrepreneuse. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie?
Non, bah, tu vois, cette phrase que j'ai lue, je pense, quand je passais mes examens, quand je passais mon bac, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, c'est vraiment la phrase qui me suit et que je trouve tellement, tellement juste. C'est vraiment juste, tu fais ton truc et puis, quelles que soient les pensées que t'as, en fait, on s'en fout du mental. Juste laisse-le de côté et s'il veut penser au scénario dégueulasse, fine, enfin, qu'il fasse son truc, mais toi, avance pas à pas. Et cette phrase, j'aime beaucoup. C'est une phrase de Romain Rolland, apparemment.
Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu?
Ouais, bah écoute, avec mon associé, on est très très différents. Et je pense qu'au début, on s'engueulait beaucoup. Aujourd'hui, on considère que nos désaccords sont positifs, en fait. Et font vraiment avancer la boîte. Et nous font avancer nous. Et donc, en fait, au départ, je pense que voilà, on s'est beaucoup rentré dedans. Toujours le cas, parfois. Ça a pointé du doigt plein de faiblesses que j'avais. Tu vois, je suis pas du tout minutieuse, je suis pas du tout assez dans le détail, je vais vite, j'écoute pas toujours assez, il y a plein de trucs, et ça, toutes ces remarques-là qui m'ont fait mal au début et qui me font toujours mal, et qui viennent souvent donc de mon associé, c'est des remarques dont je suis très reconnaissante en fait, parce que ça me permet vachement d'avancer et de comprendre plein de trucs, et de travailler.
Quel est l'accomplissement ou la victoire qui te rend la plus fière et pourquoi?
Bah, le livre, c'était un gros accomplissement pour moi parce que c'est publié chez Larousse, qui est genre le truc de notre enfance, qui rappelle tellement de choses. De voir ton nom sur une couverture, c'est con, mais t'as un produit physique qui reste et ça fait, même si je suis pas, enfin, tellement exigeante qu'il y a plein de trucs qui où je me dis, ah, peut-être que ça, j'aurais pu faire mieux sur le livre et tout, mais quand même, je suis hyper fière du livre. Et de la boîte à outils que ça représente, parce que c'est un mix entre des recettes et du développement personnel. Et c'est en fait une sorte de boîte à outils de plein de choses qu'on peut faire pour avoir un meilleur impact sur soi et sur la planète. Donc ouais, le livre, c'est un gros accomplissement. Mais je pense que mon plus gros accomplissement aujourd'hui, le truc dont je suis le plus fière, c'est l'équipe. Vraiment, ouais, voir l'équipe qui grandit, voir les filles avec qui je bosse tous les jours, qui sont juste brillantes et brillants pour les garçons aussi, bien sûr. Mais au quotidien, je suis plus en relation avec les filles. Ouais, franchement, ça, voir que les valeurs qu'on porte et que j'ai l'impression qu'au départ j'étais juste un ovni sont partagées non seulement par une grosse communauté et sur Insta, c'est génial, mais au quotidien par des gens qui bossent chez nous et qui considèrent que ça a du sens et qui se donnent corps et âme pour ça, ouais, c'est une énorme fierté.
Merci beaucoup Camille, merci pour tout ça. On arrive sur la fin de l'interview. J'ai une batterie de petites questions. Donc je vais te demander, en règle générale dans la vie, tu es plutôt A ou B. Je sais que personne n'est jamais l'un ou l'autre de façon tranchée, c'est un spectre. Je te demande quand même de choisir. Donc les règles du jeu, c'est plutôt des réponses courtes. Choisir ou un joker si vraiment tu peux pas choisir. Et s'il y a une question à laquelle tu peux pas répondre ou veux pas répondre, ben tu me le dis en strike, mais je préfère que tu m'expliques pourquoi.
Ok.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste?
Optimiste.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue?
Anxieuse. Je sais que c'est paradoxal. Je suis une optimiste anxieuse.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excité par l'inconnu de l'avenir?
Excitée par l'inconnu de l'avenir.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude?
Amatrice des moments de solitude.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter de demain?
Ah bah profiter de la vie tout en travaillant. Je pense que ça peut aller ensemble, mais pas du tout travailler maintenant pour profiter demain, pas du tout.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente?
Confiante.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique?
Organisée.
En règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique?
Pragmatique.
Merci beaucoup Camille, c'est la fin de cette interview. passionnante.
Merci pour toutes tes réponses,
merci pour ce partage.
Merci à tous ceux qui écoutent, c'est chouette.
Où est-ce que j'envoie toutes celles et ceux qui, séduits par ton parcours et ta personnalité, vont vouloir ne plus rien rater de tes projets à venir?
Le compte d'un Funky Veggie sur Insta, c'est funky-veggie. Moi, mon compte, c'est Camille Azou, qui a beaucoup moins de followers. Mais voilà, et sinon, nos produits, vous pouvez les trouver en ligne et en magasin. Et le livre est publié chez Larousse, Ma vie en plus funky et veggie. Vous pouvez le trouver en ligne chez la Fnac et compagnie. Et dans les meilleures librairies hors confinement.
J'allais rebondir sur le confinement. Puisque vous vendez des produits alimentaires, vous pouvez encore les vendre en ce moment.
Ouais.
C'est dans les Franprix.
Ouais, en magasin et en ligne aussi. On livre via notre shop. Ouais.
Évidemment, tous les liens qui viennent d'être mentionnés seront dans les notes du podcast. Merci beaucoup Camille.
Merci à toi.
Veggie.
Trop cool.
Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.